Décryptage, Marie Cazadebé.
15 jours après l'annonce de sa démission surprise depuis l'Arabie Saoudite, Saad Hariri n'est toujours pas rentré au Liban. Il a en revanche quitté Riyad pour Paris, où il a été accueilli samedi par le président Emmanuel Macron. Paris, une étape avant Beyrouth, a précisé le Premier ministre libanais.
Je me rendrai à Beyrouth. Dans les quelques jours prochains, je participerai à la célébration de notre indépendance et c'est là-bas que je ferai savoir ma position sur tous les sujets après m'être entretenu avec le président de notre République, le général Michel Aoun. Merci.
Pourquoi ne pas être rentré directement à Beyrouth? Pourquoi la France est-elle intervenue pour accueillir le Premier ministre libanais sur son sol? Quel avenir attend Saad Hariri au Liban? Notre invité va nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Et bonsoir, Rolly Daher.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes politologue, professeur à l'université Paris-Dauphine et à Sciences Po. Dans une interview accordée à la télévision libanaise depuis Riyad, c'était le 12 novembre, soit une semaine après la présentation de sa démission, voilà ce que Saad Hariri annonçait.
Je vais retourner au Liban dans un futur très proche et je remettrai ma démission en respectant la procédure constitutionnelle. Si je veux quitter le royaume, je peux le faire dès demain. Mais je veux protéger ma famille. Je ne veux pas que ce qu'il s'est passé avec mon père se reproduise.
Aurélie Daher, le bientôt s'est ensuite précisé, il a été question de 48 heures de délai. Et puis finalement, samedi, c'est à Paris et non à Beyrouth qu'il est arrivé. Alors pourquoi Saad Hariri n'est pas rentré directement au Liban, comme il l'annonçait dans cette interview?
Pour plusieurs raisons. La principale étant que, d'abord, la présence de Saad Hariri à Paris a été en fait négociée par la France, par Monsieur Macron, avec l'Arabie Saoudite. Donc, comme vous le savez, Monsieur Macron donc a fait un saut alors qu'il était aux Émirats, et un saut surprise en Arabie, ce qui est une reconnaissance par la France qu'il y avait une véritable crise entre le Liban et l'Arabie Saoudite autour justement de la rétention, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, de Monsieur Hariri en Arabie. Et finalement, Monsieur Macron, je pense, a essayé de finalement aider ses deux alliés, puisque les relations entre la France sont aussi cordiales avec le Liban qu'avec l'Arabie Saoudite. Étant donné que les Libanais bloquaient sur le fait que Monsieur Hariri n'était pas libre et ne pouvait pas sortir de l'Arabie Saoudite, Monsieur Macron a donné aux Libanais ce qu'ils voulaient, à savoir sortir Monsieur Hariri d'Arabie Saoudite. Et seulement les Saoudiens ne voulaient pas qu'il rentre à Beyrouth, notamment parce que ça aurait été vraiment l'image claire et nette de l'échec en fait de toute leur entreprise des derniers 15 jours. Donc finalement, passer par la France, c'est un moyen à la fois de calmer la colère des Libanais, de prouver que non, il n'a pas été retenu contre son plein gré, il peut sortir, et en même temps permettre aux Saoudiens, j'ai envie de dire, de garder la face.
Vous pensez vraiment que ça change tout alors de faire un petit passage par Paris juste quelques jours avant de retourner à Beyrouth si Saad Hariri revient véritablement à Beyrouth?
Je pense que certains compte aussi sur le facteur temps, c'est-à-dire que déjà on va dire la plaie suppure un peu moins du fait qu'il est sorti. Et puis je pense aussi qu'on attend que à Beyrouth les esprits se calment un peu, parce que en fait l'initiative saoudienne a provoqué en fait une colère généralisée et de manière complètement transconfessionnelle, et ça c'était pas du tout prévu par les Saoudiens. Les Saoudiens misaient en fait au contraire sur une initiative sunnite, une montée des températures entre les sunnites et les chiites en vue en fait de mettre KO le Hezbollah et les Iraniens au Liban. Finalement en fait c'est exactement l'inverse qu'ils ont obtenu. Ils se sont tirés une balle dans le pied. Ils ont retiré eux-mêmes leur propre poulain en fait du jeu politique. Ils ont complètement affaibli en fait les sunnites pro-saoudiens au Liban.
Parce qu'il y a un véritable soutien de Saad Hariri en ce moment au Liban. C'est vrai qu'on voit des affiches avec écrit sauver Saad.
Complètement.
C'était quelque chose d'inenvisageable, d'inimaginable avant cette crise.
Assez extraordinaire, parce que les Saoudiens ont réussi quelque chose que d'autres ont essayé pendant, que les personnes les mieux intentionnées ont essayé pendant des années, donc de rapprocher notamment les chiites et les sunnites sur une même lecture, on va dire, de la grille régionale. Et là, ils ont réussi en fait à mettre un peu tout le monde d'accord. Il faut quand même rappeler que lorsque Monsieur Hariri a annoncé sa démission depuis Riyad, Donc personne en fait n'a cru au fait que c'était quelque chose qui venait vraiment de sa volonté. Mmh. Il y a eu un gros coup de semonce côté sunnite. Faut quand même pas oublier que par exemple quelqu'un comme Nouhad Machnou, qui est donc ministre de l'Intérieur et grand ténor du courant du futur, donc le courant de Monsieur Hariri, quand même a tensé vertement les Saoudiens sur le thème les Libanais ne sont pas un troupeau de moutons, le Liban n'est pas un lopin de terre dont la propriété passerait d'une main à une autre, etc. À Tripoli, capitale sunnite du Nord, on a brûlé les posters de Mohammed bin Salman, enfin MBS pour les intimes, donc le prince héritier, en fait véritable homme fort du royaume. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu.
Alors ça signifie, on vous entend, que le discours du 4 novembre, lorsque Saad Hariri démissionne, a été clairement dicté par les Saoudiens, c'est ça que vous dites ?
Complètement. Bah, de toute façon, on a des rapports très clairs qui ont été établis par les gardes du corps de M. Hariri, qui ont été renvoyés de Riyad quelques jours après le 4 novembre, donc après son arrivée et sa démission. Donc il raconte qu'en fait, il était supposé aller là-bas pour une réunion urgente avec le roi. Il a été sommé de venir seul, sans son staff politique, même pas son dirkab, qui se trouvait en plus son cousin Germain, un proche lui aussi du régime. Il est arrivé, il était avec sa femme et ses enfants. On l'a immédiatement séparé de sa femme et ses enfants. On lui a fauché son téléphone portable. Mmh. Et c'était pas le corps diplomatique en fait qui l'attendait à l'aéroport, c'était la garde royale, donc des militaires.
Il n'a vu de responsable saoudien que quelques heures plus tard. Il démissionne, il l'annonce. Est-ce que finalement, une semaine après, lorsqu'il dit dans une interview qu'il va pouvoir rentrer, qu'il est tout à fait libre de ses gestes, de ses mouvements, est-ce qu'il n'a pas obligé, finalement, en le disant, est-ce qu'il n'a pas obligé les Saoudiens à le laisser partir ?
Lui, non. Il n'a pas obligé les Saoudiens à partir. Alors, les Saoudiens, je pense, ont compris qu'ils avaient fait vraiment une grosse bourde. Mm-hmm. Ils essayent de trouver une sortie à peu près décente à la chose. Et je pense, en fait, ce qu'ils essayent de faire, c'est obtenir une couverture à la fois régionale, ce qui explique d'ailleurs la réunion avec la Ligue arabe.
On y viendra tout à l'heure.
Voilà. Ouais. Mais aussi internationale, pour justement, donc, comme on disait tout à l'heure, sauver la face. Et puis, je pense aussi que il faut pas oublier que Monsieur Hariri, vous savez toute cette histoire autour du fait que, enfin, de la question, est-ce qu'il allait venir seul ou est-ce qu'il allait venir avec sa femme et ses enfants, puisqu'initialement les Saoudiens ne voulaient pas laisser repartir sa femme et ses enfants, c'est du classique dans les opérations de prise d'otages.
C'est quoi ? C'est pour l'intimider, on garde la famille avec
c'est
nous.
C'est un levier, c'est un moyen de pression, c'est-à-dire on va te laisser repartir, tu vas aller au Liban, tu vas aller expliquer ce que tu as expliqué, mais il est hors de question que tu reviennes sur ta décision. Et de toute façon, nous, ici, on tient ta femme et tes enfants. Donc,
Alors finalement, à Paris, il est arrivé avec sa femme et ses enfants ?
Non, il est venu avec sa femme et son fils. Mais sa fille de 12 ans est restée là-bas. Donc, ce qui, à mon sens, prouve tout ce qu'on vient de dire. Il n'y a aucune raison qu'une petite fille soit laissée à Riyad quand papa, maman et le grand frère vont faire du shopping à Paris.
On comprend en tout cas qu'Emmanuel Macron, en intervenant, a permis aussi à Riyad de sortir d'une situation extrêmement inconfortable. Emmanuel Macron, donc, qui a annoncé il y a quelques jours qu'il avait invité Saad Hariri à Paris.
Nous avons besoin d'un Liban fort, d'une intégrité territoriale au Liban, et nous avons besoin d'avoir des dirigeants qui soient justement libres de leur choix et de les exprimer. Je me suis entretenu avec le prince héritier Mohamed Ben Salman et avec le Premier ministre Saad Hariri, et nous sommes convenus que je l'invitais pour quelques jours en France avec sa famille. C'est aussi un geste d'amitié, une volonté marquée de la France de contribuer au retour au calme et à la stabilité au Liban.
Aurélie Daher, pourquoi Emmanuel Macron a été si réactif dans cette affaire, donc en se rendant à Riyad, vous l'avez dit, seulement 5 jours après l'annonce de la démission de Saad Hariri ?
Je pense que M. Macron a compris, comme tout le monde, que la situation devenait extrêmement grave, et pas seulement au Liban, mais en fait au Moyen-Orient, parce qu'il ne faut pas oublier que donc la démission forcée de M. Hariri s'inscrit dans un package, que le jour même donc a été formé en Arabie Saoudite, une commission anticorruption qui a été placée comme par hasard sous la direction de MBS, et qui a procédé immédiatement à l'arrestation, comme vous le savez, de 11 princes, une trentaine de ministres, qui d'ailleurs aujourd'hui, initialement c'était des rumeurs, mais là ça a été confirmé par New York Times, donc sont en train de se faire torturer, ça y est, c'est officiel. officiels, il y en a qui sont à l'hôpital. Et puis il y a eu le renforcement aussi dans les 24 heures qui ont suivi du blocus contre le Yémen. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait l'Arabie Saoudite a envoyé un message très clair ce week-end-là d'une volonté de monter vraiment en pression dans son bras de fer avec l'Iran. Et je pense que tout le monde a eu vraiment peur d'un grand dérapage régional.
Alors quand vous parlez de dérapage, c'était quoi? Peur vraiment d'une guerre, d'une confrontation armée? L'Arabie Saoudite a espéré peut-être à un moment aussi qu'Israël réagisse. En tout cas, la tension est montée à tel point qu'Emmanuel Macron a voulu tenter d'apaiser les situations. Quel est l'intérêt de la France dans cette affaire? Parce que là, vous répondrez à la curiosité d'un auditeur qui nous a posé la question sur Facebook.
De toute façon, il ne faut pas oublier tout d'abord que la France a une grande tradition d'amitié, j'ai presque envie de dire de protection bienveillante à l'égard du Liban. C'était très vrai dans les années, on va dire, où il y a encore une fibre gaullienne en matière de politique étrangère. Monsieur Chirac, en l'occurrence, il ne faut pas oublier en plus les relations personnelles qui existaient entre Monsieur Chirac et la famille Hariri, notamment avec le père. Et ça s'était par exemple particulièrement vu au moment de la guerre de 2006, donc au cours de l'offensive israélienne contre le Liban en juillet-août 2006. Donc ça, c'est une première chose. Je pense que Monsieur Macron a envie un peu de raviver ça. La deuxième chose, je pense aussi que pour M. Macron, c'était un peu un test diplomatique pour lui, puis même, je veux dire, en termes de politique interne, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une politique étrangère est avant tout une politique interne. C'était un peu sa grande crise, finalement, internationale, première grande crise internationale à gérer. Donc, j'imagine qu'il a aussi voulu faire ses armes.
Donc, vous l'avez dit, quand même, il est intervenu alors que la tension était vraiment très, très vive. Mais la France, c'est le seul pays à avoir tenté une médiation. Personne n'a essayé de venir au secours finalement du Liban, de Saad Hariri, de Riyad, et tous ces acteurs en même temps.
Alors je pourrais parler un petit peu des États-Unis.
Justement.
La première réaction en fait a été celle de M. Trump, qui dans un premier temps, a visiblement pas réussi à mesurer toute l'ampleur de ce qui se passait et donc qui s'est contenté de tweeter ses félicitations en fait à Mohammed bin Salman pour ce qu'il faisait contre l'Iran. Oui. Et puis quand finalement le State Department, donc le ministère des Affaires étrangères grosso modo américain, a commencé à comprendre que ça devenait dangereux, finalement Tillerson est intervenu en disant attention, Monsieur Hariri est un partenaire très important et un ami des États-Unis et nous tenons à la stabilité du Liban. Et c'est une formule extrêmement intéressante, la stabilité du Liban, qui a été aussi utilisée par M. Macron. Et en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? On entend refus d'une guerre civile, d'un retour à la guerre civile, notamment d'une guerre entre sunnites et chiites.
Oui, que le Liban, finalement, devienne le théâtre d'un affrontement, même entre puissances étrangères, en l'occurrence.
Voilà, c'est une formule polie pour critiquer, grosso modo, l'initiative saoudienne.
En tout cas, la France, en intervenant, ne s'est mis à dos aucun pays du conflit, ni le Liban, ni l'Arabie Saoudite, ni l'Iran.
Ah, les Iraniens ont un petit peu rouspété. Après, il y a des formules, j'ai envie de dire, de circonstances. Il faut aussi dire certaines choses dans certains contextes. Pour autant, une chose est sûre, c'est que les Iraniens sont très contents de ce qui s'est passé. Puisque, de toute façon, de deux choses l'une. Soit la démission est maintenue, et il va falloir maintenant former un nouveau gouvernement, donc choisir, il va falloir que les divers acteurs libanais, sunnites, chiites et chrétiens se mettent d'accord sur un nouveau Premier ministre. Et là, évidemment, il va être très difficile pour les pro-saoudiens d'imposer un de leurs clients à la tête du gouvernement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le Hezbollah et pour l'Iran. Soit la démission n'est pas maintenue, ou alors que Monsieur Hariri reprend, on va dire, les rênes d'un prochain gouvernement, notamment après les élections législatives de mai 2018. Et là, vu que le Hezbollah, qui est en fait le véritable arbitre de la vie politique libanaise, entend travailler avec des gens fiables et stables, va clairement doubler la pression sur le clan sunnite pour que, grosso modo, il s'engage à ce que Monsieur Hariri ne recommence pas ce genre d'éclat. Et j'ai même envie de dire, il va falloir même que l'Arabie Saoudite, d'une manière ou d'une autre, donne des garanties qu'elle ne remettra plus son grain de sel pour déstabiliser le Liban.
Aurélie Dahère, la suite de notre décryptage sur la situation délicate du Premier ministre libanais Saad Hariri, actuellement donc en France, soupçonné d'avoir été l'otage de l'Arabie Saoudite pendant 15 jours. Il y a encore peu, le ministre saoudien des Affaires étrangères s'en défendait, Adel Al-Joubert.
Ce sont des allégations non fondées. Premier ministre est un citoyen saoudien et libanais. Il vit ici, il peut quitter l'Arabie saoudite quand il le souhaite. C'est à lui de décider à son évaluation de la situation sécuritaire. Nous accuser de retenir un ancien Premier ministre, c'est inexact.
Aurélie Daher, est-ce que l'Arabie saoudite a obtenu ce qu'elle voulait lorsqu'elle a poussé Saad Hariri à la démission?
Non, pas du tout. Elle s'est tirée une balle dans le pied, comme je disais tout à l'heure, et elle a complètement obtenu en fait l'inverse. Elle s'est auto-éjectée en fait du jeu politique libanais, et elle a complètement affaibli en fait ses clients dans la vie institutionnelle libanaise, et elle laisse en fait, j'ai envie de dire, un boulevard devant le Hezbollah et les pro-iraniens.
En tout cas, elle a obtenu la paralysie de la vie politique libanaise, au moins pour un temps.
Mais pas vraiment. En fait, il y a une chose très intéressante, c'est que il y a eu un édito, je donnerai pas le nom, mais il y a eu un édito dans Le Monde qui a dit que en fait cette crise libanaise donnait l'impression que le Liban était un avion sans pilote et que le pilote en fait venait de sauter de l'avion et que l'avion partait grosso modo dans le mur, et ça a été repris en fait par mal de médias. Et je pense qu'en fait la crise a montré exactement l'inverse, c'est que en fait il y a le Liban a été anormalement solide face à la crise. Il en faut beaucoup moins pour qu'au Liban on se retrouve avec des mobilisations dans la rue, des gens qui coupent les routes, qui brûlent les pneus, des morts, etc. Là, on n'a absolument eu rien de tout ça. Et le Hezbollah, comme il y a une coordination parfaite en fait entre le Hezbollah et son allié, donc Michel Aoun, donc parti chrétien, donc qui tient la présidence. Et ils ont vraiment choisi justement de faire passer en fait la stabilité, le calme, et surtout empêcher justement tout dérapage interconfessionnel avant tout. Et la question qui se pose, c'est est-ce que finalement M. Hariri est si central que ça? Alors il est central dans le sens où il fait partie de l'équation du compromis auquel donc toutes les factions politiques libanaises étaient arrivées il y a un an, après une grosse crise institutionnelle de 2 ans et demi. Pour autant, on se rend compte que si on peut trouver finalement un responsable sunnite disposé au même compromis, que M. Hariri en tant que tel n'a plus vraiment d'importance.
Alors Saad Hariri, donc a priori après le Caire, mercredi, donc demain, devrait donc arriver mercredi à Beyrouth, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'Aurélie Daher, vous pensez qu'il va effectivement rentrer à Beyrouth? Ça fait plusieurs fois qu'il l'annonce et on ne le voit toujours pas au Liban.
Alors, il y a absolument rien de garanti, puisque quand en fait M. Macron avait annoncé déjà donc que M. Hariri serait au Liban pour mercredi, le jour même, le ministre des Affaires étrangères libanaise annonçait vendredi, donc le 24, et un député du bloc parlementaire de M. Hariri, lui, parlait d'une grande tournée arabe avant d'entrer à Beyrouth, l'Égypte, le Koweït, etc. Donc, pour l'instant, ce sera comme Saint Thomas, on ne croira que ce qu'on verra.
Alors, une fois qu'il sera à Beyrouth, parce qu'il faudra bien qu'il rentre un jour, est-ce qu'il va présenter sa démission au président Aoun? Parce que pour l'instant, il en a parlé, elle n'est pas officielle. Est-ce qu'il doit démissionner? Est-ce qu'il a le choix? Ou est-ce qu'il pourrait finalement revenir sur cette annonce?
Dans le principe, déjà, il va obligatoirement rencontrer le président. Et dans le principe, oui, il est obligé de présenter sa démission. Après tout, c'est pas de caisse. Il va le faire. Maintenant, en fait, il y a plusieurs indices qui donnent à penser qu'il espère qu'on va la rejeter. Voir qu'on va faire un petit cinéma, de le supplier de rester.
Ou qu'on va attendre le mois de mai, puisqu'il y a des législatives. Est-ce qu'on pourrait lui demander de rester à son poste jusqu'aux prochaines élections?
Je ne crois pas qu'il restera. Enfin, je pense que c'est vraiment deux choses l'une. C'est soit on le reprend maintenant, mais soit on ne le reprend pas, mais on ne le reprendra pas en mai.
Il nous reste un petit peu de temps pour que je vous pose une question qui nous a été soumise par Eduardo sur Facebook. Et il se demande si Saad Hariri peut malgré tout se maintenir au poste de Premier ministre. Pourquoi pas en se représentant, en démissionnant et finalement se représentant?
Le problème, c'est que au Liban, on n'est pas nommé Premier ministre comme en France. En France, tout dépend de la majorité parlementaire. La majorité parlementaire, en l'occurrence, elle est de l'autre bord de M. Hariri. Il faut qu'il y ait consensus entre acteurs politiques. Et là, c'est pas gagné.
Merci beaucoup, Aurélie Daher, politologue, professeure à l'Université Paris-Dauphine et à Sciences Po. Merci à toute l'équipe de Décryptage. Éléonore Crény qui m'a aidée à préparer cette émission. Anaïs Tchikaya à la documentation. Vanadis Feuille à la Sonothèque et Lorenzo Danné qui était à la réalisation. Je vous donne rendez-vous maintenant sur les pages Facebook et Twitter de l'émission. N'hésitez pas à nous poser les questions que vous inspirent les sujets qui vont suivre. Demain, a priori, nous parlerons évidemment de la crise politique en Allemagne. Très bonne soirée. Dans 30 secondes, le retour de l'actualité africaine.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions.